Bonjour et bienvenue dans ce nouveau grand oral AEF Info FNEJ, le podcast qui interroge les stratégies dans l'enseignement supérieur de gestion. Je suis Sarah Pieuvezan, journaliste à AEF Info, et je suis accompagnée par Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ, pour recevoir notre invité du jour, Élian Pilvin, directeur général de l'EM Normandie. Bonjour Jérôme et bonjour Élian.
Bonjour.
Bonjour.
Élian Pilvin, vous avez pris la succession de Jean-Guy Bernard en février 2020, à la tête de l'école normande, et avant cela, vous en avez été le directeur marketing et relations entreprises, puis le directeur du développement des opérations, et enfin le directeur général délégué. Vous n'avez donc pas un profil d'académique, vous êtes diplômé du programme Grande École de l'EM Normandie et de l'IMBA d'HEC. Mmh. Vous avez obtenu un exécutif DBA à Dauphine récemment.
Tout à fait.
Et votre carrière avant l'EM Normandie, c'était la création de sociétés dans la musique et l'ingénierie de solutions audiovisuelles, je crois.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier de directeur d'école de commerce ?
Avant d'être attiré par le métier de directeur d'école de commerce, j'étais attiré surtout par le milieu que j'ai découvert en fait en sautant la barrière, puisque j'ai été très longtemps le président des alumni de l'EM Normandie pendant 13 ans, donc de 2000 à 2013. Et à ce titre, je siégeais au conseil d'administration de l'école de commerce du Havre, qui s'appelait comme ça avant. Et effectivement, en tant qu'administrateur, je trouvais l'écosystème intéressant, mais en fait, on est assez éloigné quand même des problématiques organisationnelles de ces structures quand on est administrateur. Et puis, j'ai eu l'opportunité en 2013, lors d'une discussion avec Jean-Guy Bernard, effectivement, qui était directeur général à l'époque, et François Roulival, président de l'école, président historique, de discuter d'éventuellement d'accompagner l'école dans son développement, qui était très très fort à cette époque-là, hein, puisque le modèle économique de l'EM Normandie date de 2008, enfin, en tout cas celui qui a été posé par Jean-Guy Bernard. Et puis je suis arrivé à un moment où l'école se professionnalisait, élargissait en fait ses compétences sur des dimensions plus marketing, plus relations entreprises, et qui était en fait mon background professionnel. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cet univers passionnant que sont les grandes écoles. Et j'ai appris à les connaître, j'ai appris à voir ce qui m'a beaucoup plu surtout, c'était le défi stratégique dans lequel étaient les écoles dans les années 2010. Il ne faut pas oublier qu'on était au moment des fusions de Schema, de Neoma, de Kedge. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur l'univers concurrentiel dans lequel les écoles étaient en train d'agir. Et puis, cette internationalisation extrêmement forte. Moi, c'est aussi ma culture, hein, puisque mes activités d'avant étaient essentiellement tournées sur l'international. Donc, cette dimension internationale dans l'école, et qui est intrinsèque en plus à l'ADN de l'EM Normandie, m'a beaucoup plu. Et puis voilà comment ça s'est passé. J'ai pris différentes fonctions. Et puis, comme il était important, enfin, je me suis dit, quitte à travailler pour une école, pourquoi pas la diriger. Alors, ce n'était pas à gagner d'avance, hein, puisque la succession de Jean-Guy a été âpre. Mais pour autant, il me paraissait essentiel de faire aussi un doctorat. C'est pour ça que je l'ai suivi à Dauphine et que je l'ai eu en 2019.
Très bien. Parlons un peu maintenant de l'école en elle-même.
Tout à fait.
Vous dirigez une grande école qui a une longue histoire, qui dispose de toutes les accréditations qualité nationale et internationale de renom, EQUIS, ACSB, le grade. Et pourtant, vu de l'extérieur, on a parfois la sensation que vous appartenez à un groupe à la fois très concurrentiel, sinon fragilisé par les évolutions du haut des classements, quel qu'il soit, qui eux-mêmes se développent, et d'autre part, une démographie qui est un peu en réduction. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre positionnement dans l'univers des grandes écoles de management tel que vous le voyez aujourd'hui ?
Alors, la grille de lecture normale, très française d'ailleurs, des grandes écoles est assez monolithique. C'est-à-dire qu'il y a un premier qui est historique depuis des années et des années, et qui le restera certainement encore pour des années. Et pour autant, on est sur un système qui est très en phase avec notre recrutement, qui est un recrutement post-prépa. Et si on veut avoir une analyse un tout petit peu différente, c'est-à-dire le thème de ma thèse, il faut regarder en fait l'univers concurrentiel des écoles plus par groupe stratégique et par positionnement dans des grappes où ils peuvent être leaders. Et l'EM Normandie, effectivement, si vous la prenez et si vous la noyez dans l'ensemble des grandes écoles françaises, plutôt d'obédience post-préparatoire, l'école est effectivement dans le 6e, 17e, 18e, 19e, suivant les années, mais qui n'est pas l'univers concurrentiel de l'EM Normandie, et d'ailleurs qui n'est pas l'héritage dont j'ai bénéficié, l'héritage stratégique, hein, de Jean-Guy Bernard, qui a été de dire que et on l'a été très très longtemps, le positionnement stratégique de la Normandie, c'est un positionnement post-bac. Pourquoi ? Parce que on est né d'une fusion, et ça on l'oublie très souvent, on était une des premières écoles à fusionner en France. On a fusionné en 2005, puisqu'on a fusionné notre programme post-bac qui était à Caen, qui s'appelait Support Up CESEC, avec notre programme Grande École, qui s'appelait Subdeco Le Havre-Caen à l'époque. Et de cette fusion de programmes, en fait, Jean-Guy, on a créé un modèle économique très particulier, qui était le modèle économique d'une école durablement positionnée sur le post-bac, multi-entrée, donc post-bac, post-prépa et admission parallèle. Et on l'est resté très très longtemps, jusqu'à l'année dernière, et ce positionnement, en fait, nous a permis d'accéder, et je pense que, et si on prend les papiers de Pierre Menger, qui est prof au Collège de France, sur la concurrence positionnelle et surtout la rente réputationnelle que génèrent en fait les grandes écoles de commerce, aujourd'hui il faut être premier quelque part, ou du moins il faut être dans un groupe de tête. Et effectivement, l'UM Normandie n'est pas dans le groupe de tête des écoles post-préparatoires. Pour autant, on est dans le groupe de tête des écoles post-bac françaises, et qui est le marché qui a le plus de traction aujourd'hui, si vous regardez et vous comparez le nombre d'étudiants qui sont recrutés en post-bac en France. Tout programme confondu, hein, pas que le programme Grande École, mais les bachelors, les BBA. En fait, c'est sans commune mesure avec le recrutement, le niveau de recrutement des classes préparatoires aujourd'hui. Et puis après, si vous ajoutez dessus les admissions parallèles en troisième année ou en master 1, là, en fait, on est sur des modèles économiques qui, ou du moins des diversités d'accès aux grandes écoles qui a complètement changé la donne. Et ça, c'est très, très important de changer sa grille de lecture. Et nous, cette grille de lecture, on l'a changée très, très en amont. À partir de 2008, hein, quand l'école a obtenu le grade de master. Et ça nous a permis de, voilà, de creuser un sillon et de s'accrocher sur un groupe de tête aujourd'hui. Et on en est très, très fiers. Et c'est là-dessus qu'on construit le modèle de l'UM Normandie de demain.
Alors, pour autant, vous êtes toujours concentré sur le PGE, puisqu'il doit y avoir encore 90% des étudiants qui sont dedans. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est... est-ce que ça va durer ou est-ce que vous avez des intentions autres ?
Non, nous, notre programme, il a toujours été... Nous, effectivement, comme vous le dites, Jérôme, on diplôme 90% de nos étudiants au travers du programme Grande École. Et notre programme Grande École n'est pas un bachelor ni un BBA. Hein, c'est le programme Grande École en 5 ans. Le diplôme à la sortie est exactement le même qu'HEC, hein, soyons très clairs, ou que les 38 grandes écoles qui ont le grade de master en France aujourd'hui. Et ça, c'est important de le dire. Par contre, le modèle est différent. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle recrutement post-bac, là où on a aussi des étudiants qui rentrent en post-prépa, mais pour être tout à fait franc avec vous, et c'est de notoriété publique puisque les chiffres sont annoncés, on recrute un étudiant en prépa pour 9 étudiants aujourd'hui en admission post-bac. Donc,
14 cette année.
C'est 14 ? Oui, c'est ça. Oui. On a recruté 14 BCE, effectivement, cette année, pour un tout petit peu moins de 900 étudiants en post-bac.
Nous voilà rassurés sur votre positionnement stratégique. Venons-en à vos ambitions pour l'école, puisque vous annoncez un chiffre d'affaires pour 2030 autour de 115 millions, contre aujourd'hui, en 2022, 62-63 millions d'euros, en forte progression, puisque c'était 52 en 2021. Alors, comment vous pensez arriver à réaliser cette augmentation forte, 84%, en augmentant le nombre d'étudiants, en augmentant les frais de scolarité, en ayant d'autres stratégies? La question ne porte pas sur l'international qu'on abordera ultérieurement. Donc
alors,
sur le,
qui est quand même une grosse partie du modèle économique, mais si je peux juste préciser, effectivement, la croissance endogène de l'école, et il serait périlleux de croire que les arbres montent au ciel et que le marché français est un marché qui continuera à être en croissance. Et la démographie nous le montre, hein, puisque depuis l'année dernière, il y a eu un retournement de situation, enfin un retournement de conjoncture sur la démographie, et on est en démographie baissière. On va perdre 250 000 étudiants, hein, dans le supérieur à horizon 2040. Et donc la croissance de l'UM Normandie ne repose pas sur ses programmes en France et sur ses campus en France. Par contre, elle historique, mais elle repose sur l'écosystème que l'école est capable de créer. Donc, c'est-à-dire que la filialisation d'activités, la création d'activités connexes à son cœur de métier qui est la formation grande école. Donc, on a créé notamment des filiales dans la médiatisation enfin, les LMS, tout ce qui est Learning Management System, et la digitalisation de contenu pédagogique, qui s'appelle Ingenium, qui est une structure qui existe depuis très longtemps, mais qu'on a filialisée maintenant depuis 2 ans. On a créé aussi une activité de formation continue qui s'appelle Learning Compétences, qui développe toute une branche d'activités qui n'étaient pas du tout dans le cœur de grande école, à savoir des BTS en alternance, mais aussi on porte des titres Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5. Et ça, c'est important d'élargir en fait le spectre d'activités. Et puis, les activités de formation continue... voilà, l'avenir en France, ou en tout cas pas qu'en France, hein, en Europe, quand on voit la démographie, on sera plus sur le lifelong learning et la capacité des écoles à savoir apporter la connaissance et la montée en compétences perpétuelles qu'on va devoir avoir, en fait, les travailleurs aujourd'hui, enfin les travailleurs, les personnes qui travaillent, qui ont accès au marché du travail, parce que, alors, il y a le côté tarte à la crème de dire que l'IA va tout bouleverser, mais c'est vrai, in fine, c'est vrai, et l'apprentissage permanent est, à mon avis, une des grandes sources de développement des grandes écoles. En tout cas, nous, on y travaille fortement, au travers de plateformes, notamment d'apprentissage, qu'on a développées.
Alors, pour faire tout ça, il faut des profs.
Oui.
Aujourd'hui, vous avez un taux d'encadrement qui est en gros de 1 pour 63, qui est un peu faible, et vous annoncez pour 2030 1 pour 42, est-ce à dire qu'il va y avoir un plan d'embauche massif de profs dans les années qui viennent à l'EMM Normandie ?
Tout à fait, le plan il a été annoncé, je l'ai annoncé moi en 2020. Ce plan il a été, c'est un peu ce qu'on appelle le plan 150, puisque nous avons l'objectif d'avoir 150 profs permanents à la faculté de l'EMM Normandie, tout campus confondu. Donc c'est aussi important puisque nous avons nos campus français, mais aussi nos campus internationaux dont on est propriétaire. Donc on est aussi, on a nos propres facultés sur place. 150 profs permanents à l'EMM Normandie à la rentrée 2025. Là, cette année, si vous prenez les chiffres de la rentrée 2023, on est à 126 profs. Donc à la rentrée 2024, on sera aux alentours des 140, on sera à 150 à la rentrée 2025, ce qui est l'objectif.
Il y a un élément fort de la stratégie de l'EM Normandie ces dernières années qui a été son choix de s'installer à Paris, de manière massive, avec un campus de 13 600 m², je crois, à Clichy plus exactement. C'est le plus grand des 5 dernières années, avec celui de Schema à Suresnes, d'après les tableaux que j'ai regardés dernièrement.
Tout à fait.
Comment vous rentabilisez un tel investissement ?
Alors, déjà, vous l'avez dit, c'est à Clichy. Historiquement, quand l'EM Normandie s'est implanté à Paris en 2014, nous étions implantés dans le 16e arrondissement. Et je peux vous dire que le prix au mètre carré dans le 16e arrondissement et le prix au mètre carré à Clichy, pour un bâtiment flambant neuf à Clichy, alors que c'était loin d'être le cas dans le 16e arrondissement, puisque nous étions dans l'ancienne perception des impôts du 16e, on a quasiment économisé, on n'est pas loin de 50% d'économies au prix au mètre carré.
Mais c'était beaucoup, beaucoup plus petit.
C'était beaucoup plus petit, et c'est tout à fait vrai. Pour autant, la croissance du marché post-bac, et on revient sur ce marché post-bac français, la traction de l'Île-de-France sur ce marché est extrêmement forte. Et ce campus était essentiel pour nous, puisque on devait être en capacité de garantir une expérience étudiante de qualité à ces 600 étudiants qui rejoignent le campus parisien chaque année. Et ça, on était en grande difficulté de le faire sur nos campus, notre campus du Rhin-Lag. Et là, avec ce campus qui est flambant neuf, avec tout ce qui est nécessaire pour que les étudiants vivent une expérience pleine et entière, nous permet d'avoir beaucoup plus d'étudiants, bien sûr, présents sur site, puisqu'on a une capacité de 3500 étudiants sur le campus de Paris. Donc, mécaniquement, on a les chiffres nous permettent en fait d'amortir et de rentabiliser cette implantation.
Et comment vous maintenez la qualité de ce corps étudiant dans ces conditions, en particulier la sélectivité ?
Alors, la sélectivité, on est très très clair sur la sélectivité, et encore une fois, les chiffres sont publics. Si vous regardez sur la Banque Sésame, on est la deuxième école la plus sélective sur la Banque Sésame après l'ESSEC. Nous, on recrute des étudiants qui sont parmi les meilleurs étudiants français qui ne souhaitent pas faire une classe préparatoire, puisque c'est surtout ça, le fait est, et pas que chez nous, mais chez nos deux autres consoeurs qui sont triplement accrédités et qui sont post-bac et qui sont aussi implantés sur Paris, mais aussi implantés en région, c'est exactement la même sociologie d'étudiants. Et on le voit très très bien, les étudiants qui arrivent à l'école, pour bon nombre d'entre eux, ont eu une mention au bac, parlent très bien l'anglais, choisissent directement l'international. C'est aussi ce qui fait le sel de la Normandie, de pouvoir partir directement à Oxford ou à Dublin dès la première année. Et donc cette sélectivité, chez nous, elle est claire. On ne rogne pas sur la sélectivité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une des premières décisions que j'ai prises en prenant la direction générale de la Normandie, c'était de ne pas augmenter les effectifs en première année. On aurait très très bien pu continuer à ouvrir 100, 150, 200 places supplémentaires. Et le marché était présent à l'époque, en 2020, quand c'était le cas. Et puis, la décision a été prise de freiner en fait, la croissance endogène en France, mais par contre, plutôt d'ouvrir des filières autres à l'international.
Alors, on va venir à l'international. Oui. Une dernière question sur ce campus parisien. Je crois que depuis 2 ans, son poids dans les effectifs est équivalent, voire à dépasser celui des campus de Caen et du Havre réunis. Donc c'est quand même un changement historique d'une certaine manière. Le campus de Caen a longtemps été le centre de gravité, je crois, de l'école. Non, c'était le Havre.
Alors en fait, ça dépendait des années. C'est-à-dire que le Havre a été le barycentre, ensuite c'est passé à Caen. En fait, les campus historiques normands, hein, comme le Havre, sont séparés de 100 km, ce qui est déjà une exception française. Hein, avoir deux campus dans une même région, espacée de 100 km. Alors la Seine, bien sûr, séparée les deux campus. Et vous savez qu'en Normandie, la Haute et la Basse Normandie, c'était un sujet, hein, politique, mais aussi économique. Et le fait que la Normandie ait fait cette jonction entre la Haute et la Basse Normandie, avant même que le président Hollande fasse la fusion des régions, a été un élément déterminant. Et nous, le bassin naturel de la Normandie, c'est le bassin, j'ai envie de dire, parisiano-normand. C'est-à-dire que les Normands, il y a plus de 10 siècles, sont arrivés en vallée de la Seine, sont remontés jusqu'à Paris. On a un peu fait la même chose, vous savez, la passion de Jean-Guy Bernard pour les Vikings.
Pour les Vikings, oui. Hein, on bien est, connu.
Voilà, et donc Jean-Guy a suivi cette dynamique, et voilà. Et nous, notre logique, elle est très territoriale. C'est-à-dire qu'on considère Paris comme étant l'extension. Excusez-moi, je suis normand, mais comme étant l'extension de la Normandie. Donc c'était très naturel pour nous d'être à Paris, et on est légitime à Paris. Et c'est pas parce qu'on s'appelle EM Normandie qu'on n'est pas légitime à être à Paris.
Par contre, votre gouvernance normande doit quand même vous poser des questions sur le fait que vous allez servir d'une certaine manière un autre territoire que le leur.
Alors, on ne sert pas un autre territoire que le leur. On sert une école qui est durablement normande. Elle a le nom Normandie dans son nom. Elle sert les intérêts de la Normandie parce que être fort à Paris, c'est permettre d'être fort en Normandie. Les investissements que est capable de faire l'école aujourd'hui sur ces différents campus, on a un campus flambant neuf au Havre qui est magnifique et sur le bord des quais, on a un projet de réhabilitation et d'extension de notre campus de Caen, on ne pourrait pas le faire si l'école n'était pas aujourd'hui en position de force sur son marché et cette capacité à investir dans l'avenir, et ça c'est pour nous c'est essentiel. Et effectivement, un point essentiel aussi, c'est que la gouvernance, et là-dessus on est très très clair, et ça n'a pas bougé d'un iota depuis la création du groupe École de Management de Normandie, c'est que la gouvernance est normande, la direction générale est en Normandie, les fonctions essentielles de direction générale sont en Normandie. On a, et ça aurait été, je pense qu'on aurait un holà ou un no-go de la part de la gouvernance, si un jour, que ce soit moi ou un futur ou futureux directrice ou directeur général d'école, voulait basculer le barisan de la gouvernance sur Paris, parce que là, ça ne passerait pas, et d'ailleurs, c'est le cas. Et le siège historique de l'école est au Havre depuis 153 ans, il n'y a pas de sujet à le changer.
Alors, quittons un peu la vallée de la Seine.
Oui.
Vous avez multiplié les campus, vous êtes à Oxford, Dublin, Dubaï, vous avez des projets à Boston et Ho Chi Minh ou Saigon au Vietnam pour les années à venir. Vous avez dit suivre une logique d'implantation dans des villes-mondes portuaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche et les objectifs sous-jacents ?
Tout à fait. Alors, il ne voudra pas échapper qu'Oxford n'était pas une ville-monde portuaire. Hein.
Paris non plus.
Alors, dites pas ça, parce que là, vous allez vous faire des ennemis, hein, puisque Paris a besoin d'une sortie maritime pour être une ville-monde. Et si vous écoutez tous les grands projets, voilà, la vallée de la Seine et l'extension naturelle de Paris, je pense que c'est un certain Nicolas Sarkozy qui disait ça. Le Grand Paris, ça s'appelait. L'idée, si vous voulez, c'est historiquement, le Normandie a été créé au Havre dans un port, fin du 19e siècle, qui était un des ports de commerce les plus puissants d'Europe, sur lequel la révolution industrielle s'est constituée et a pris cœur dans le nord de la France, qui était quand même le nord industriel, qui avait cette force. Le créateur de la Normandie, qui est Jules Siegfried, en 1871, et son frère a créé une autre école normande, pas très très loin de nous, en 1872. Et ces institutions avaient pour but d'aider les entreprises, alors on n'appelait pas ça des entreprises, mais les sociétés de commerce à l'époque, à faire du commerce avec les colonies, à faire du commerce avec les comptoirs, et donc de former les jeunes gens, alors surtout les jeunes hommes à l'époque, parce que les femmes n'avaient pas accès aux bancs de l'école, à commercer avec le monde. Et ça, c'est resté dans l'ADN de l'école, et qu'est-ce qui est resté? C'est l'international et la dimension logistique et portuaire. Et nous, en 2020, quand on a réinterrogé, puisque 2020 était l'année où on s'est interrogé sur le plan stratégique, qu'on a annoncé en 2021, et 2021, c'était les 150 ans de l'école, et on a réouvert les livres de l'époque. Et on a réouvert les premiers mémos de Jules Siegfried, on a interrogé, on a regardé. Et ce qui était intéressant, c'est que les réflexions qu'on avait en 2020 étaient exactement celles qu'il avait en 1970, et on s'est dit, mais la logique d'implantation de la Normandie, elle doit se faire dans des villes qui nous correspondent et qui nous ressemblent. Et ces villes-mondes portuaires, des villes ouvertes, c'est ça qui a été le driver dans la définition de la stratégie, parce que c'est des villes dans lesquelles on peut apporter une valeur ajoutée, mais aussi on peut en extraire quelque chose dans l'apprentissage et dans, dans l'expérience étudiante. Et c'est comme ça qu'on a effectivement eu ces projets de déploiement.
Et la vocation de ces campus, c'est plutôt d'accueillir vos étudiants maison ou alors d'en recruter localement ?
Alors, exact. C'est vraiment le changement de stratégie hein, qui a été opéré en 2020, puisque tous les campus que nous ouvrons maintenant sont des campus dans lesquels on demande les accréditations locales, les statuts, alors quand c'est possible, des statuts d'université pour pouvoir dispenser nos propres diplômes reconnus localement. C'est le cas, c'est comme ça que Dubaï a été entièrement créé, puisqu'on est reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur, excusez-moi, aux Émirats. Et c'est l'idée, c'est d'avoir des hubs décentralisés de recrutement dans des régions à fort dynamisme. Les Émirats, enfin, le Golfe en est une, l'Asie du Sud-Est en est une autre. Les États-Unis, c'est un petit peu différent, puisqu'on est sur un partenariat stratégique de longue date avec l'University of Massachusetts. Donc là, on est plus sur une logique d'aller chercher de la co-diplomation, d'avoir des programmes structurants avec eux sur des plus petits volumes. Donc l'idée n'est pas de recruter aux États-Unis, mais par contre, pouvoir attirer aux États-Unis des étudiants internationaux qui voudraient aller chercher des doubles compétences sur place avec l'University of Massachusetts. Et puis voilà, et l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais en tout cas, les premiers chiffres le montrent. Et les bassins, puisqu'on en revient sur la notion de modèle économique, l'Europe est en déclin démographique, hein, je ne parle que de déclin démographique, et il faut aller chercher les relais de croissance à l'international, d'autant plus que le contexte géopolitique, et c'est très très important de le prendre en compte, fait que ça va être de plus en plus difficile pour les étudiants internationaux de se positionner, ou du moins de se projeter comme un étudiant possiblement accepté en Europe. On voit bien hein, les difficultés aujourd'hui d'accès à notre marché de l'enseignement supérieur européen, pour certaines populations ou certaines nationalités. Et ce qu'on ne voit pas, et je voyage très régulièrement, c'est qu'il y a un changement de logique, et notamment pays du Maghreb, notamment si vous regardez le Maghreb, il y a de plus en plus d'étudiants qui se détournent en fait, de l'Europe pour aller dans d'autres hubs d'enseignement supérieur. Et ça, c'est important de l'avoir, puisque ça va changer en fait, la donne dans les années à venir.
Alors, comme un mot sur le campus de Dubaï, qui a fait couler beaucoup d'encre à cause de l'image très bling-bling de cette capitale des sables. Aussi parce que ça paraît complètement contradictoire avec les objectifs de réduction d'empreintes carbone que se fixent toutes les écoles aujourd'hui. Vous y pratiquez des prix très élevés sur place, avec des frais de SCO à 28 000 euros par an pour un bachelor. Ne craignez-vous pas le syndrome de la démesure ?
Alors non, parce que, et là je loue le système français, hein, je serai toujours le plus fervent défenseur de ce système français. On a certainement le système d'enseignement en sciences de gestion le plus qualitatif au monde, et celui où le rapport qualité-prix est sans commune mesure avec ce qui existe dans le monde. Je ne vais pas parler des prix des MBA aux États-Unis ou les prix des scolarités aujourd'hui dans les facs anglaises depuis le Brexit, hein, puisque l'inflation pour les non-britanniques a été exponentielle. Hein, ça a été multiplié par 2 ou par 3 sur les facs. Et les prix que nous pratiquons à Dubaï sont les prix de marché. Donc on est dans des prix de marché et ce sont des prix de marché qui s'adressent à une population locale ou d'étudiants qui se posent la question d'aller en Australie, qui aux États-Unis, peu importe. Donc on est dans cette logique vraiment de positionnement concurrentiel prix qui est tout à fait cohérente avec le positionnement de l'école, mais sans être en contradiction avec ce qu'on fait en France. Puisque les prix qu'on pratique en France sont parmi les plus bas des écoles, on est en dessous de la moyenne aujourd'hui, et c'est ça qui est important, et cette agilité à savoir aussi saisir des opportunités et savoir se positionner concurrentiellement avec les atouts et les contraintes des pays, c'est aussi quelque chose qu'on a appris à faire au fur et à mesure, puisque ça fait les stratégies internationales de l'école datent maintenant de plus de 10 ans, et donc on a été en capacité de faire les choses différemment.
Et sur cette question d'empreinte carbone ?
Alors, la question de l'empreinte carbone, on va être très très clair, les étudiants qu'on recrute sur place habitent généralement à Dubaï, ou s'ils habitent au Pakistan ou en Inde, c'est beaucoup plus proche que de l'Europe. Nos étudiants qui vont sur place sont dans des cadres de déplacement qui sont obligatoires dans le cadre de la scolarité de l'école, donc ils vont y passer soit un semestre académique, soit une année académique. Et puis, il faut savoir que nous, on voit ça sur un parcours complet. C'est-à-dire que les étudiants sont formés dès l'entrée à l'école sur Alors, au-delà de l'empreinte carbone, ils sont sur leur empreinte globale et on les incite très très fortement au travers d'un passeport développement durable, de calculer cette empreinte et de se dire, voilà, si j'ai fait mon premier semestre en dehors d'Europe, international, bah, pourquoi aller en faire un deuxième alors que je suis déjà parti en dehors de l'Europe, je ne sais pas. Mais moi, je suis pour la responsabilisation des étudiants et pas pour l'injonction à leur dire vous ne devriez pas faire. Parce que qui on est, nous, en tant que génération, pour leur dire ce que nous n'avons pas fait. Et ça, c'est très difficile. Et moi, en tant que directeur général, la liberté, et ça, c'est intrinsèque dans la mission de l'école, la liberté de penser, la liberté d'entreprendre, la liberté d'agir, c'est consubstantiel à qui on est. Et je ne suis personne pour dire aux générations de demain et aux générations d'aujourd'hui, vous ne devez pas faire ça. Par contre, les aider à comprendre ce qu'ils pourraient faire certainement bien mieux que nous, c'est ça qui est important. Et c'est d'ailleurs, c'est tout l'intérêt des grandes écoles aujourd'hui, c'est de transformer nos générations futures, quoi.
Élian Pulvin, ce podcast touche malheureusement déjà à sa fin. Juste avant de vous quitter, une dernière question quand même. Mmh. Auriez-vous un conseil de lecture ou d'écoute pour nos auditeurs qui permettrait de prolonger ce moment ?
Alors, j'ai deux conseils. J'en ai deux parce qu'en fait, ils font un peu écho. J'aime beaucoup la science-fiction et des fois, la science-fiction ou la réalité dépasse la science-fiction. Et je vous conseille fortement la lecture du rapport de la CIA Horizon 2040. Alors, pas tant parce que ça va nous raconter une histoire, mais tout simplement parce que ça permet d'allumer des petites ampoules dans le cerveau en se disant mais effectivement ça pourrait être ça et ça permet de sortir du cadre et de se poser des questions sur qui on va être demain, quels sont les grands enjeux et ça c'est très très français, on aime se regarder le nombril en France, on a du mal à quand même à se considérer comme des acteurs d'un monde plus large dans lequel on, tout ne passe pas par la France et y a des interactions qui s'imposent à nous, donc cette lecture du rapport de la CIA était très intéressante. Et je laisserai les personnes qui le feront en tirer leurs propres analyses. Mais parallèlement à ça, je préconise aussi la lecture du rapport Educause 2023, puisque ce 2024 n'est pas encore sorti. Alors là, on est plus sur l'aspect, la transformation des éléments, l'IA, toutes les technologies, comment la tech va impacter l'enseignement supérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on relie les deux, il y a des similitudes transformationnelles qui sont très très fortes, puisque dans le rapport Educause, vous avez 4 scénarios. Transformation, collapse, chute, stagnation et croissance. Et ça, c'est intéressant de voir comment ces scénarios se parlent aussi avec les lectures que peut avoir la CIA. Alors, vous pourriez m'opposer le fait que c'est très, très américain comme lecture. C'est tout à fait vrai. Et en même temps, il faut aussi leur reconnaître qu'ils sont souvent en avance sur les lectures stratégiques.
Géopolitique et tech, donc.
Exactement.
Merci beaucoup, Élian, de nous avoir rendu visite au studio Module. Merci aussi à vous, Jérôme. Et merci à tous nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci.